Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Dans un peu moins d'un mois, à partir du 12 juin, les regards du monde entier seront tournés vers le Brésil, pays hôte du mondial de football, qui s'annonce comme l'événement sportif de l'année. La présidente de l'Union nationale des supérieurs générales met en garde les responsables de la FIFA. Ces événements planétaires ont un triste corollaire, la traite des êtres humains. C'est la une de ce magazine. En Terre Sainte, le pape François sera accompagné par un rabbin et par un professeur musulman, vieux ami de Buenos Aires. Après avoir analysé hier la portée écuménique de ce pèlerinage, coup de projecteur aujourd'hui sur les relations islamo-chrétiennes. Et en cette veille d'élections européennes, nous verrons que le contexte d'insécurité économique en France, mais aussi en Europe, favorise la perte de repères. Des associations chrétiennes avertissent que ces ressentiments peuvent engendrer des attitudes d'exclusion, de racisme et de xénophobie. Des religieux se mobilisent contre le trafic des êtres humains à l'occasion de la Coupe du monde de football qui va se dérouler au Brésil. Talita Kum, le réseau international de la vie consacrée contre la traite des personnes, a présenté sa campagne ce mardi au Vatican. Une campagne qui s'adresse en priorité aux jeunes, attirés par des emplois provisoires et livrés à la prostitution. Les coupes en Allemagne et en Afrique du Sud ont montré une augmentation des cas de traite à hauteur de 30 et de 40%. Le réseau international est né il y a une dizaine d'années au sein de l'Union internationale des supérieurs générales. Financé par le gouvernement américain, il travaille en collaboration avec l'OIM, l'Office international des migrations. Objectif donc, prévenir, assister, sensibiliser, dénoncer la traite des êtres humains, spécialement des femmes et des enfants. Manuela Affigi.
De jeunes filles issues de familles pauvres des campagnes qu'on appâte avec la promesse d'un travail, d'autres qu'on enlève, des jeunes enfants vendus par leurs parents, des scénarios aussi nombreux que sordides et qui risquent de se multiplier avec le mondial de football. Le message est donc clair pour Talita Kum, le chrétien ne peut rester passif à cette réalité et doit se mobiliser comme croyant et comme citoyen. Joue en faveur de la vie, dénonce la traite, voilà donc le slogan choisi pour cette initiative du réseau Talita Kum. Objectif, lever l'épais voile du silence. Faire prendre conscience du phénomène de la traite, de ses implications, de ses multiples ramifications et de son impact. Cette campagne se tient surtout via les médias et réseaux sociaux, Facebook notamment, et sera active dans les 12 villes hôtes du mondial. Elle mobilisera près de 250 religieux et religieuses déjà engagés sur le terrain en coordination avec des partenaires laïcs. Quelques exemples d'actions concrètes, affiches publicitaires sur les transports en commun, rencontres dans les écoles, débats, distribution par des volontaires dans les lieux publics à risque, aéroports et gares. Talita Kum veut donc alerter sur la réalité de la traite, sur son omniprésence et les juteux profits qu'elle génère. Pour la présidente de l'Union des supérieurs générales, il est urgent et primordial de rendre les personnes conscientes de ce qui peut arriver en marge de tels événements comme la Coupe du Monde. Sans cette conscience, sans agir ensemble pour la dignité humaine, avertit-elle, les finales seront une terrible honte au lieu d'être une fête pour l'humanité.
Il faut ajouter que le mondial brésilien qui débute dans moins d'un mois, le 12 juin prochain, risque de subir l'impact du climat social brésilien. La grogne populaire qui monte dans les rues du Brésil, principalement en raison des coûts pharaoniques. L'inflation, la corruption ou encore l'état des services publics figurent également parmi les revendications des Brésiliens en colère. Par ailleurs, les retards dans les travaux et notamment en ce qui concerne la livraison des stades suscitent l'inquiétude. 25% des étrangers qui avaient prévu de faire le voyage l'auraient est annulé. Le pape François est proche de la Colombie en deuil. Une trentaine d'enfants sont morts brûlés vifs dimanche dans le nord du pays dans l'incendie d'un car au retour d'un office religieux. Le véhicule qui ramenait chez eux de jeunes paroissiens de l'église pentecôtiste a explosé avant d'être détruit par les flammes. Le Saint-Père a fait parvenir un télégramme de condoléances à l'évêque du lieu. Il exprime sa peine profonde et sa proximité avec toutes les personnes touchées par cette horrible tragédie. Il prie le Seigneur d'accueillir les défunts et de réconforter leurs proches. Il prie aussi pour le rétablissement des blessés. Le pays est en colère car l'incendie serait dû à l'imprudence du chauffeur qui s'est rendu à la police. Il a été placé en détention provisoire. Le Le pèlerinage du pape François en Terre Sainte du 24 au 26 mai se veut avant tout un voyage œcuménique pour marquer le 50e anniversaire de la rencontre à Jérusalem entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras. Il n'en reste pas moins que le déplacement du pape en cette terre fondatrice des monothéismes entretiendra aussi la flamme du dialogue avec les juifs et avec les musulmans. On attend des signes forts pour marquer les esprits, des signes de paix pour approcher des communautés aujourd'hui encore enferrées dans la suspicion, la haine et le rejet. Alors qu'en est-il du dialogue islamo-chrétien, de sa qualité? Comment aussi est perçu le pape François? Autant de questions posées au théologien et islamologue Jean-Claude Basset, professeur à l'Université de Lausanne.
Il ne faut pas oublier que c'est au fond du côté chrétien, et en particulier avec Nostra Aetate, que le dialogue a été lancé du côté chrétien, repris aussi dans les milieux du Conseil œcuménique des Églises. Et au fond, pendant longtemps, du côté musulman, on l'accueillait, on suivait. Et puis après, on a vu apparaître des initiatives. Beaucoup de paroles et finalement peu d'actions. Et il me semble que c'est une des difficultés actuelles du dialogue. Il y a toujours des rencontres, que j'allais dire officielles, et des programmes même de continuité qui malheureusement ne débouchent pas sur d'authentiques réalisations. Et je dirais qu'il faut aujourd'hui, au fond, le reformuler, se réengager dans un dialogue qui n'est pas seulement au niveau de la parole, mais des actions communes, des prises de position communes. Maintenant, dans une société déchirée, divisée, difficile de dialoguer paisiblement. Deux exceptions pour moi, c'est des contacts au niveau plus personnel, là où il y a un lien d'amitié, un vivre ensemble. Et il y a de réels efforts qui sont faits, mais c'est vrai, aujourd'hui il reste très minoritaire, parce que ça s'inscrit sur un fond qui est de méfiance, voire de rejet à l'égard de l'Occident. Donc quand on parle du dialogue islamo-chrétien, il faut le lier au dialogue, au rapport entre Orient et Occident. Je crois qu'il y a très peu de dialogue islamo-chrétien en tant que tel. Il y a toujours une dimension politique, voire économique et certainement sociale.
Récemment, 12 auteurs français, connaisseurs de l'islam, ont publié un livre qui a suscité pas mal de discussions, « La mésentente ». Où ils expriment leur préoccupation quant à l'efficacité et à l'honnêteté intellectuelle du dialogue islamo-chrétien. Quel est votre point de vue à ce sujet?
Oui, je crois qu'il y a une réelle difficulté. Alors, ce livre met le doigt, de manière assez lucide, critique, mais aussi lucide, par rapport à, au fond, une sorte de dialogue assez superficiel. Le dialogue organisé, on attend des gens qui se rencontrent, qui vont dire des choses plutôt gentilles, mais où il y a un profond manque de volonté de réellement changer. Il me semble que c'est le dialogue lui-même qui est apparu comme la solution. Je crois qu'il reste préférable à la confrontation, mais en même temps, on a besoin d'une sorte de, je veux dire, de sérieux. Maintenant, là aussi, je crois qu'il faut le réinscrire dans le contexte politique. Si des rencontres sur le plan religieux sont possibles, il ne faut pas en attendre des grands changements dans la mesure où on s'inscrit sur un arrière-plan sociopolitique, j'allais dire oppositionnel. Donc c'est tout un travail qui est à faire et qui doit être mûri. On ne peut pas se satisfaire, je dirais, ni d'un échec des dialogues, parce que nous vivons ensemble sur la même planète, et on ne peut pas non plus continuer sur la même voie s'il n'y a pas ce souci de changement.
On a contextualisé le voyage du pape en Terre Sainte en parlant du monde musulman, du développement des idées, du dialogue islamo-chrétien. Maintenant, j'aimerais bien savoir, de l'islamologue que vous êtes, comment on perçoit le pape François dans ce monde arabo-musulman, et surtout en Palestine?
Je crois qu'il faut dire d'abord, on s'inscrit sur un fond général de méfiance ou de rejet à l'égard de l'Occident en général. Je crois qu'il y a eu des blessures profondes. Alors bien sûr, on re-mentionne volontiers les croisades, toute la période coloniale. Et puis, quand je parle de l'Occident, revient souvent l'invasion et la guerre menée par l'Occident en Irak. En particulier la seconde, sous des faux prétextes, aujourd'hui c'est reconnu, et il n'y a jamais personne qui va faire un travail critique. Et donc, il y a un profond ressentiment à l'égard de l'Occident en général. C'est vrai que les contacts que j'ai eus montrent que le pape, et en particulier le pape François, apparaît un peu comme une autre voie, comme la possibilité d'une attitude plus ouverte, pour ne pas dire plus généreuse, en tout cas moins arbitraire et soucieuse exclusivement de son propre intérêt dans l'Occident. Il reste que on est sur un fond de blessure, de frustration profonde, et au fond, je pense que c'est des actes, et je me réjouis de la visite du pape François au Proche-Orient. Je ne crois pas qu'il faut en attendre de grands changements dans l'immédiat, mais de conforter cette idée qu'il est possible d'être occidental et d'être autrement que dans cet affrontement souvent mis en avant.
Le théologien et islamologue Jean-Claude Basset, interrogé par Gabriele Palaciano. Contrairement à ses prédécesseurs Jean-Paul II et Benoît XVI, le pape François ne se rendra pas en Galilée, dans le nord d'Israël, d'où la déception des Arabes chrétiens de la région. Dans une lettre, ils implorent le Saint-Père d'intensifier ses efforts pour faire pression sur le gouvernement d'Israël afin qu'il mette fin aux injustices infligées aux Palestiniens. Depuis plus de 60 ans, les autorités israéliennes les empêchent de revenir sur leurs terres, de reconstruire et de planter des arbres, malgré une décision de la Cour suprême en leur faveur. Selon un sondage réalisé le mois dernier par le sociologue Bernard Sabella, 62% des chrétiens palestiniens de Jérusalem souhaitent émigrer. D'abord en raison du manque d'emploi, puis de l'impasse politique et des difficultés économiques. Cette semaine sera aussi celle des élections européennes qui se tiendront du 22 au 25 mai dans les 28 pays de l'Union européenne. Des élections qui devraient être marquées par une forte abstention et par la montée de l'euroscepticisme, voire des populismes europhobes, un phénomène que les experts attribuent au désenchantement des électeurs face à l'image de technocratie et d'impuissance que donnent aujourd'hui les institutions européennes. La législature qui s'achève a surtout été marquée par la crise financière et ses conséquences politiques et sociales. Et ce scrutin est présenté comme déprimant. Monseigneur Jean-Pierre Grallet est l'archevêque de Strasbourg, ville où siège le Parlement européen. Il est aussi le représentant des évêques français à la COMECE, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne, qui appelle chaque citoyen à voter sans oublier les bienfaits de la construction européenne. Monseigneur Grallet insiste sur cette reconnaissance souvent oubliée de la construction de l'Europe.
Je crois qu'il faut qu'on retrouve une espérance, c'est-à-dire à être reconnaissant pour l'Europe qui, après la réconciliation franco-allemande, eh bien, nous a assuré 70 ans de paix. Moi, je suis frappé d'avoir vu 2500 jeunes Ukrainiens venir à Strasbourg et être impressionné de la façon dont nous pouvons vivre en démocratie européenne. Et j'ai été impressionné de voir leur attente quand ils étaient à la rencontre européenne de Thésée dans notre ville de Strasbourg. Mais je sens bien qu'il y a un déficit de communication, un déficit de compréhension. On explique mal l'Europe, et ça je regrette. C'est à la fois nos gouvernants nationaux qui doivent veiller à ce que l'Europe soit mieux comprise, et pas seulement les élus européens. Nous avons une éducation à faire sur l'Europe. Il faut vraiment que nous puissions davantage expliquer l'Europe et puis faire en sorte qu'on ne soit pas noyé dans une bureaucratie qui fait que les gens disent ben, « l'Europe, c'est de plus en plus de mesures, mais qui les prend, qui en rend compte et tout ça ?» Donc on sent qu'il y a une distance qu'il faut réduire entre les décideurs et les Européens.
Quelle est la place de l'Église catholique dans cette meilleure explication de l'Europe, justement ?
La méthode qu'on a prise, c'est de rappeler un certain nombre de valeurs fondamentales qui fait que l'Europe apparaîtra comme plus humaine, porteuse du devenir des personnes, avoir le souci de la solidarité, rappeler la dignité de la personne, veiller à chaque génération, promouvoir la justice sociale, respecter l'environnement. Non, je crois qu'il faut que nous puissions nous centrer sur des grandes valeurs communes qui font l'unanimité. Il faut que nous nous souvenions de l'idéal chrétien, des pères fondateurs, le fait d'être solidaire, le fait de se pardonner, le fait de créer des traités d'entraide. Ça, c'est des valeurs chrétiennes qu'il faut que nous puissions garder. L'Europe ne peut se construire que sur une logique de solidarité à tous les niveaux, entre nations, entre régions, entre groupes sociaux. Et pour bien s'exercer, la solidarité entre nous doit s'accompagner d'une révision de nos façons de consommer. Il ne faut pas que les uns consomment toutes les ressources et que la majeure partie soit exclue de la consommation.
L'unité de l'Église catholique, ça peut être un exemple pour l'Europe ?
Il est clair que l'unité de l'Église catholique, d'une part, et son universalité, d'autre part, c'est un modèle intéressant de fonctionnement. Vous savez que, par exemple, le principe de subsidiarité est un principe issu du droit de notre Église. L'Union européenne se construit sur ce principe de subsidiarité qui veille à ce que l'unité de l'ensemble ne se fasse jamais au détriment de la légitime responsabilité des États membres. Ni de leurs traditions respectives. C'est-à-dire, le pouvoir supérieur ne décide pas ce qui peut être décidé à un échelon subalterne. Le principe de subsidiarité veille à ne pas démobiliser les personnes dans leurs responsabilités propres. Et ça, c'est un principe qui était mis en pratique dans le droit canon de l'Église catholique. Un évêque, bien sûr, dans un diocèse, a un très grand pouvoir, mais il doit veiller à ce que le curé soit responsable dans sa paroisse. Et nous devons progresser là-dedans. Il y a un centralisme qui tue la démocratie.
Monseigneur Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg, interrogé par Jean-Baptiste Cocagne. En cette veille d'élections européennes, les présidents d'ATD Quart-Monde, du CCFD, des Terres solidaires, d'Emmaüs, de la CIMAD, de Médecins du Monde et du Secours catholique appellent à la solidarité intra-européenne, à la construction d'une Europe accueillante et solidaire des réfugiés, d'une Europe garante de l'accès aux soins et aux droits fondamentaux pour les populations les plus précaires. Ces associations soulignent que la souffrance sociale, le désarroi politique, les mesures d'austérité ont des impacts durables sur tous les aspects de la société. Selon un récent sondage, 22% des Français estime que l'appartenance à l'Union européenne est une mauvaise chose, mais 73% d'entre eux souhaitent que la France reste dans l'euro et 72% considèrent que l'Union est une garantie pour la paix et la justice en Europe. Jusqu'au 28 mai en France, les équipes du Secours catholique se mobilisent autour de 23 de leurs partenaires internationaux pour relayer la campagne d'action internationale 2014 « Droit à l'alimentation » des Caritas, appuyée par le pape François. Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous, c'est l'interpellation pressante de cette première campagne mondiale portée par le réseau Caritas. Lors du lancement, le 10 décembre, sur la place Saint-Pierre, le souverain pontife avait rappelé que l'alimentation était un droit fondamental donné par Dieu à tous. Le Secours catholique est confronté quotidiennement à des familles pour qui la nourriture est souvent le reste à vivre une fois le loyer et les factures d'énergie réglées. 6 millions de Français sont touchés par la malnutrition, 842 millions dans le monde alors que la production agricole peut nourrir 12 milliards d'habitants. Parmi les causes de ce paradoxe, les problèmes d'accès à la terre, les conséquences du réchauffement climatique, la spéculation sur les denrées alimentaires, le gaspillage des ressources. Selon les mots du pape François, cette campagne est aussi une exhortation à arrêter de penser que nos actions quotidiennes n'ont pas d'impact sur les vies de ceux pour qui la faim est une expérience directe. Une télévision accusée de blasphème, cela s'est passé au Pakistan mercredi dernier dans le cadre de ses émissions matinales. La chaîne pakistanaise GeoTV a diffusé les images du mariage d'une comédienne à la réputation sulfureuse, accompagnée d'un chant religieux évoquant les noces entre la fille de Mahomet et le calife Ali. Cette association a provoqué un déchaînement de colère au Pakistan, beaucoup réclamant l'application de la loi sur le blasphème contre les dirigeants de la chaîne et les producteurs du programme. Le Conseil sunnite a émis une fatwa interdisant aux fidèles de regarder cette chaîne populaire. L'émission a été supprimée et tous les employés licenciés. Pas question cependant d'appliquer la peine de mort prévue par la loi. Alors que, relève la Fondation Aide à l'Église en détresse, des chrétiens innocents comme Asia Bibi ont bien été condamnés, eux, à la peine capitale. Les chrétiens pakistanais ne cachent pas leur indignation et leur amertume. Récemment encore, un jeune chrétien de Lahore, dénoncé pour blasphème à la suite d'un différend concernant une propriété immobilière, a été été condamnés à mort, alors que les 83 intégristes musulmans qui ont mis le feu à un quartier chrétien ravageant les logements, commerces et églises ont tous été relâchés sous caution. Au Pakistan, les attaques antichrétiennes sont en augmentation. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.